Sur RCF en Bourgogne, c'est le MAG, Christophe Lapostole.
Bonjour Gilles Vulin.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Dupont. Avec votre association, vous luttez contre la pauvreté, on peut le dire comme ça, en luttant contre l'exclusion sociale. Avant d'évoquer votre travail, dites-nous un petit peu plus sur cette association. Elle existe depuis combien de temps déjà?
Alors, l'association Le Pont a été créée en 1977, donc il y a 43 ans, sur Mâcon au départ. Et donc l'idée, c'était de pouvoir héberger des personnes sortant de prison. Et au fil des années, l'association s'est développée sur l'ensemble du département. Donc on est présent sur une douzaine de communes, avec pour objectif d'être au plus près des personnes en grande précarité sur l'ensemble des territoires, hein, et en particulier des territoires ruraux. La Saône-et-Loire a un certain nombre de territoires ruraux. Donc on a mis en place des plateformes de services sur l'ensemble de ces communes, avec des travailleurs sociaux qui vont à la rencontre des personnes en grande précarité, des demandeurs d'asile, des réfugiés. Voilà, donc
l'association,
c'est... Oui, pardon.
Non, allez, continuez. La situation.
Oui, l'association, c'est plus de 300 salariés, 125 bénévoles. Et chaque année, nous accompagnons, nous hébergeons 8 à 10 000 personnes sur le département de la Saône-et-Loire.
C'est énorme, c'est énorme. 10 000 personnes.
Oui, c'est ça, ouais, entre tous les dispositifs. Hein, donc on gère 7 établissements et services, 7 établissements, pardon, 25 services et 2 ateliers et chantiers d'insertion.
Ce qui est là que vous avez une grande vision, on va dire, une vision assez large de la situation sociale du département. Je le disais, vous luttez contre l'exclusion sociale. Dites-nous, les publics que vous aidez, c'est plutôt, alors vous disiez demandeurs d'asile, sans logis, c'est ça?
Alors, dans les palettes de dispositifs d'établissements de services que gère l'association, on a ce qu'on appelle des centres d'hébergement de réinsertion sociale. Donc on a 210 places de CHRS, hein, en partie, alors surtout sur des places en diffus, en appartement en diffus. On a un petit collectif d'une trentaine de places à Mâcon et une vingtaine sur le Creusot. Et puis, on gère 150 places d'hébergement d'urgence, hein, donc pour des personnes à la rue qu'on peut héberger à partir du moment où, bien sûr, il y a de la place. On a un certain nombre de dispositifs de veille sociale, donc on gère ce qu'on appelle le service intégré d'accueil et d'orientation, le SIAO, qui a pour mission donc tout ce qui est l'hébergement d'urgence. Donc en Saône-et-Loire, c'est Le Pont qui gère le 115 et qui va coordonner tous les dispositifs d'hébergement d'urgence, que ce soit les dispositifs d'hébergement d'urgence professionnel, comme les 150 places gérées par Le Pont, ou les dispositifs portés par des associations caritatives. Hein. Il y a beaucoup d'accueils de nuit sur l'ensemble du département qui sont portés soit par des centres communaux d'action sociaux, soit par des associations caritatives. Et puis donc le SIAO gère aussi toute la coordination, les orientations sur l'hébergement d'insertion, donc les fameux CHRS, et tout ce qu'on appelle, ou ce que l'État appelle la politique du logement d'abord, donc tous les dispositifs d'accompagnement vers le logement, les pensions de famille, etc.
Parce que vous êtes d'accord que pour s'en sortir quand les choses vont un peu mal, le logement c'est la première porte d'entrée vers le mieux-être.
Alors le logement, oui, sauf que quand on a vécu plusieurs années dans la rue, c'est pas toujours facile de pouvoir vivre dans un logement. Ça demande aussi, un accompagnement social important. La politique du logement d'abord, c'est effectivement de se dire, plus personne dehors et permettre à un maximum de personnes d'avoir un logement. C'est possible pour la grande majorité des personnes, mais il y a aussi quand même besoin de pouvoir mettre en place un accompagnement social renforcé, et c'est ce que permet justement les centres d'hébergement.
Alors j'imagine que l'actualité ces derniers jours vous a intéressé, à commencer par ce qu'a dit la Fondation Abbé Pierre, qui a donné un chiffre assez impressionnant, à plus de 300 000 SDF en France. Est-ce que ce chiffre vous surprend?
Alors, nous on est, en Saône-et-Loire, même s'il y a effectivement plusieurs dizaines de personnes à la rue, mais bon, donner un chiffre exact du nombre de personnes à la rue en Saône-et-Loire... ça me paraît un peu compliqué, donc on n'est pas dans les mêmes degrés de chiffres que ce qui peut être annoncé par les médias, la Fondation Abbé Pierre. Pour vous donner quelques éléments de réponse, hein, le 115 par exemple en 2019 a eu 6413 demandes d'hébergement, hein, sur l'ensemble de l'année. Alors, sachant que 6413 de demandes d'hébergement, il y a des personnes qui ont pu appeler le 115 plusieurs fois dans l'année, bien sûr.
Bien sûr.
Donc on a pu répondre positivement pour 60, 60%, hein, d'orientation, hein, donc en gros un peu moins de 4000 orientations proposées par le 115. Et à travers ces réponses, 2550 ont été pourvues, et puis d'autres n'ont pas pu être pourvues par refus de l'usager parce que ça ne correspondait pas le lieu qu'on lui proposait, l'accueil de nuit ou la place d'hébergement d'urgence était trop éloignée de l'endroit où il était au moment de la demande.
La Fondation Abbé-Pierre dit également que s'il y a deux fois plus de SDF qu'en 2012, ça se vérifie aussi ?
Alors moi, je n'étais pas dans le secteur de l'exclusion en 2012, donc voilà.
Difficile de juger, bien sûr.
Je fais confiance effectivement aux chiffres donnés par la Fondation Abbé-Pierre, mais oui, effectivement, il y a de plus en plus de personnes en grande précarité, en tout cas.
Et le travail pour les personnes en grande précarité, celles qui ont perdu un toit, si l'on peut dire ça comme ça, c'est un travail de longue haleine. Combien de temps pour qu'une personne réussisse à sortir de la rue, vraiment ?
Alors ça, c'est, je dirais, tout dépend de l'histoire de la personne. Chaque situation est singulière, donc certaines personnes vont avoir un peu plus de résilience et pouvoir accrocher à un nouveau projet, à un accompagnement social proposé par un travailleur social. Et puis d'autres, elles vont pouvoir démarrer quelque chose et puis retomber, je dirais, dans une forme de grande précarité, pouvoir revenir plusieurs mois après. Enfin voilà, donc il n'y a pas, en tout cas, les accompagnements sur les CHRS, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, elles sont entre 6 mois et 18 mois, quoi, avant de pouvoir après orienter la personne sur un logement, mais sachant qu'il y a des personnes à la rue qui peuvent aller directement au logement, et c'est vraiment les objectifs mis en place par la politique du logement d'abord.
La porte d'entrée principale vers eux, c'est quoi ? C'est peut-être le SAMU social qui est encore présent dans les rues aujourd'hui, malgré le Covid, hein, c'est ce qu'on disait.
Alors, oui, le SAMU social, c'est une réponse pour les plus grands exclus, hein, qui sont effectivement sans domicile et qu'on peut croiser le soir lors des maraudes. Après, on a aussi des travailleurs sociaux d'urgence, hein, un service qu'on appelle le service d'accueil et d'orientation, qui vont à la rencontre des personnes qui sont dans les abris de nuit, dans les hébergements d'urgence, qui permettent à ces personnes d'ouvrir des droits et de proposer un accompagnement avec une orientation via le SIAO, soit sur de l'hébergement en fonction de l'évaluation de la situation, soit sur du logement, soit sur du logement accompagné. Après, il y a tout un maillage au sein des territoires avec les maisons départementales du Conseil général, du Conseil départemental, avec les centres communaux d'action sociale, avec les équipes mobiles de santé précarité. Enfin voilà, donc il y a vraiment tout un maillage et un certain nombre de réponses qui sont possibles, mais il y a toujours aussi des personnes en grande exclusion qui passent à travers les mailles du filet.
Ça reste. On a craint lors du premier confinement que les personnes sans logis se retrouvent seules face au virus. La crise de la Covid, est-ce qu'elle a amené des initiatives, des actions particulières pour les sans logis de votre part ?
On a déjà, je dirais, assuré la continuité de service, hein, c'est-à-dire que sur les structures, les établissements d'hébergement, les travailleurs sociaux étaient présents pour assurer la continuité de service. On a continué aussi à les maraudes, hein, que j'expliquais en début d'entretien. L'accueil de jour préparait aussi de nombreux colis alimentaires. Il y a eu aussi, de la part de l'État, des distributions via les associations et en particulier le pont, de dizaines, de centaines, je dirais, même voire de milliers de chèques services pour venir en soutien aussi des associations d'aide alimentaire, parce que voilà, hein, il y a eu à un moment donné, au départ du confinement, des associations d'aide alimentaire qui ont dû fermer pour plusieurs raisons, hein, l'âge des bénévoles, etc. Donc au niveau du pont, on a développé ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire les colis alimentaires, et puis l'État est venu enchérir en proposant des chèques-services pour les plus démunis.
L'hiver à l'Alpe, le plan grand froid risque d'être activé, avec lui donc la mise à l'abri. Ce sont donc des places supplémentaires qui vont être développées d'ici peu encore.
Alors, pour ce plan grand froid, là, donc la période hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Bon, il y a eu une directive de la ministre du Logement avec la volonté d'avoir le moins de personnes à la rue. En Saône-et-Loire, ça s'est traduit par la création, l'ouverture de places, là qu'on est en train d'ouvrir, de 50 à 60 places d'hébergement d'urgence spécifiques donc pour venir répondre aux personnes sans abri pendant cette période hivernale.
Gilles Vulin, directeur du pont, vous restez avec nous. Est-ce qu'il vous arrive de servir des boissons chaudes le soir aux personnes que vous accompagnez ?
Ah bah non seulement on sert des boissons chaudes, mais on sert de la soupe chaude qui est préparée par notre conserverie alimentaire, EcoCook.
Et ben voilà.
Un atelier chantier d'insertion, donc voilà.
On va en parler dans un instant. Et ben justement, avec notre chroniqueuse et naturopathe Valène Bonny, je vous propose de parler, alors non pas des soupes, mais de tisane et d'infusion.
Voilà un sujet qui devra intéresser les sorcières du 21e siècle. Par abus de langage, on appelle infusion ou tisane différentes méthodes d'extraction des principes actifs d'une plante grâce à de l'eau. Mais pour bien extraire ces principes actifs, il y a différents procédés en fonction de la plante et du résultat souhaité. Je vous propose un focus aujourd'hui sur deux extractions à chaud, puisque c'est l'hiver, bientôt, les infusions et la décoction. Le choix pour l'une ou l'autre se fera en fonction de la plante. Si elle est herbacée, délicate, fragile, on optera pour l'infusion. Et si elle est plutôt ligneuse, coriace et charnue, on en fera une décoction. Alors on infuse toutes les fleurs et les feuilles comme celles de la verveine, de la menthe, de l'ortie, et on prépare en décoction le gingembre, le curcuma, les aiguilles du romarin, du thym et toutes les autres racines. En pratique, tout le procédé se déroule dans une casserole avec un couvercle car la vapeur d'eau chargée des principes actifs est volatile. La plante est mise dans l'eau froide, ainsi on évite le choc de la plongée dans l'eau bouillante qui pourrait l'empêcher de libérer les substances actives. Globalement, on peut préparer une cuillère à soupe de plantes réduite en petits morceaux pour un demi-litre d'eau. Ça peut varier en fonction des plantes. On porte ensuite cette eau à frémissement, puis on baisse le feu et on compte 3 à 5 minutes pour une infusion, 10 minutes pour une décoction. On coupe le feu et on laisse la plante dans l'eau pendant encore 20 minutes. Avant de filtrer pour déguster, vient l'étape la plus importante, la récupération de l'eau condensée sur le couvercle à l'aide d'une spatule. Cette toute petite quantité d'eau est la plus chargée des principes actifs de la plante, surtout si celle-ci contient des huiles essentielles. Et pour enfin s'essayer aux tisanes, je vous propose quelques plantes aisées à trouver dans les jardins. On infuse la lavande pour ses effets sédatifs sur le système nerveux, la mélisse dont les terpènes induisent un effet relaxant, la menthe poivrée qui combat le stress mental, et on prépare en décoction le romarin pour stimuler la digestion, les queues de cerise pour leurs effets diurétiques.
Christophe L'Apostole sur RCF en Bourgogne, c'est le MAG.
Merci Valène, un sujet à retrouver en podcast sur rcf.fr. Et nous sommes toujours avec Gilles Vulin, le directeur du Pont en Saône-et-Loire, association qui emploie 300 salariés et travaille auprès des plus fragiles. Gilles Vulin, on a vu pendant le premier confinement les cas de violence conjugale se multiplier. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait vous également? Je sais que vous avez un travail par rapport à ça. Hein.
Alors, effectivement, lors du premier confinement, il y a eu une explosion des demandes d'hébergement d'urgence au 115 hein, pour des situations de violence conjugale. Donc, avec les services de l'État, on a ouvert 18 places sur une commune de Saône-et-Loire pour accueillir des femmes victimes de violences. Et donc, ce dispositif qui permet donc d'accueillir 10 ménages, hein, donc avec ou sans enfants, et perdure, hein, puisque l'État, les services de l'État, la direction départementale de la cohésion sociale a souhaité que l'on continue donc ce dispositif au moins jusqu'au 31 mars, date de la fin de la période hivernale.
Mmh. C'est un gros travail, ça aussi, parce qu'on en parle beaucoup, mais souvent elles ont un peu peur de porter plainte, de se déplacer, de fuir, j'allais dire, entre guillemets. Il est facile de tendre la main quand c'est comme ça?
Alors, facile de tendre la main, je veux dire, il y a un sentiment de la part de ces personnes d'emprise dans leur relation de couple. Et c'est vrai que l'accompagnement de ces personnes n'est pas linéaire. Hein, c'est un peu aussi sur la même approche que pour les personnes à la rue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des retours au sein du domicile conjugal. L'important, c'est aussi qu'elles aient des relais. Alors il existe entre autres en Saône-et-Loire ce qu'on appelle des réseaux vifs, hein, violences intrafamiliales, qui sont portés souvent par des intercommunalités. Hein, il y en a une douzaine à ma connaissance, où le pont justement est présent sur chaque réseau. Et l'idée c'est de pouvoir aussi mailler au niveau partenarial avec les services du département, avec les services des communes, l'association France Victime, l'UFEF, etc., pour justement pouvoir permettre à ces personnes victimes de violences conjugales de pouvoir trouver un appui et éventuellement un relais qui leur permette de pouvoir se sortir de ces violences.
Gilles Villain, on va terminer avec une chose. Votre travail concerne aussi les personnes éloignées de l'emploi. Et pour cela, vous avez créé deux structures que je trouve assez exemplaires. On va citer EcoCook. EcoCook, c'est une structure, comment on va dire, qui permet de déguster des bons plats, mais de faire du social en même temps.
Voilà, donc EcoCook, c'est ce qu'on appelle un atelier chantier d'insertion. Donc c'est des personnes salariées dans le cadre d'un contrat durée d'insertion. On a une dizaine de personnes qui, à travers donc une activité de ramasse alimentaire, produisent, élaborent des repas, donc c'est une conserverie alimentaire exactement, EcoCook. Donc la démarche, bon, l'objectif c'est d'amener vers l'emploi ou vers un nouveau projet professionnel des personnes qui en sont éloignées, donc ces fameux salariés en insertion, dans le cadre d'une démarche d'économie circulaire. Donc l'idée c'est c'est la mission d'EcoCook, c'est donc de récupérer des surplus alimentaires dans les grandes et moyennes surfaces, auprès aussi éventuellement de maraîchers, et à partir de ce qui est ramassé, récolté chaque matin, l'encadrant technique cuisinier prépare des repas donc pour les personnes de l'accueil de jour de Mâcon, mais aussi pour les personnes hébergées au centre d'hébergement et de réinsertion sociale à côté d'EcoCook, et puis surtout pour le grand public à travers des bocaux, donc soit des bocaux qui passent en autoclave et donc qui sont sous forme de conserve et qui peuvent être donc vendus et donc gardés un certain nombre de mois, voire d'années. Hein. Donc c'est surtout des soupes, des confitures, quelques plats cuisinés. Et puis on peut aussi venir chaque jour à la boutique, ouverte de 8h à 14h, pour acheter des plats à déguster soit au bureau, soit chez soi, à midi. Hein, donc des plats avec une date limite de consommation courte. Et puis la dernière prestation, on livre aussi à des entreprises ou des administrations des repas en bocaux chaque jour sur l'agglomération Mâconnaise.
C'est un peu des buffets disponibles. Autre idée, EcoSol, c'est une ressourcerie, on peut le dire comme ça?
Oui, tout à fait. Donc on fait partie du réseau national des ressourceries. Hein, donc les ressourceries, c'est pareil. Dans le cadre de l'économie circulaire, lutter contre le gaspillage, permettre la seconde vie des objets. Donc on récupère soit en déchetterie dans des containers dédiés à EcoSol, soit auprès des particuliers chez eux directement ou qui viennent les apporter au sein de notre ressourcerie, des meubles, des disques, de la vaisselle, du mobilier, etc., qu'on rénove, qu'on nettoie et qu'on remet en vente. Et puis l'objectif d'EcoSol, c'est aussi de sensibiliser les jeunes publics à l'économie circulaire, à la lutte contre le gaspillage, et donc bien sûr de réinsérer, comme pour EcoCook, des personnes assez éloignées de l'emploi.
Parce que c'est vrai que c'est intéressant, il y a la relation entre la personne que vous accompagnez et le grand public, les particuliers qui viennent acheter des bocaux ou acheter des habits ou reprendre des objets. Donc il y a une vraie osmose entre les deux. Bravo en tout cas pour tout le travail du pont. Je redonne peut-être l'adresse du site internet, c'est www.lepont.asso.fr, c'est bien ça?
Tout à fait.
Voilà, et je rappelle que vous êtes le directeur de l'association. Merci Gilles Villain, bravo, bon courage à toutes vos équipes, parce que j'imagine qu'en cette période de Covid, ça ne va pas être simple tous les jours.
Tout à fait.
Merci beaucoup en tout cas.